Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec Grégory Solari. Le dimanche 19 septembre 2010 à Birmingham, au terme et au point culminant de sa visite apostolique en Angleterre, le pape Benoît XVI procède à la béatification de John Henry Newman, né en 1801 et mort en 1890, prêtre anglican, converti au catholicisme et auteur d'une œuvre considérable, pas moins de 32 volumes. Mais l'originalité de Newman ne se borne pas à être un grand théologien, l'un des plus grands théologiens des temps modernes. Il est aussi musicien, romancier, et il va exercer une influence décisive sur la culture anglaise. Lewis Carroll, par exemple, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, est un de ses lecteurs enthousiastes. La romancière, moins connue mais très drôle et à lire toujours, Muriel Spark, est convertie par ses sermons. Dvorak, qui veut mettre en musique son songe de Gerontius, qui sera d'ailleurs mis en musique plus tard par le compositeur Elgar, et de nombreux grands poètes, écrivains, catholiques, tels que le poète Gerard Manley Hopkins, Chesterton, Graham Greene, Evelyn Waugh ou encore T.S. Eliot, se sont épanouis dans le sillage du renouveau à la fois poétique et théologique qu'il a initié. Alors pour parler de John Henry Newman, nous avons avec nous aujourd'hui Grégory Solari. Grégory, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes le directeur des éditions Hatzolem, chargé d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Et cela fait plus de 25 ans que vous lisez Newman. Vous êtes en train d'achever une thèse sur son œuvre, mais vous avez déjà publié un livre sur Newman et Bergson qui s'intitule « Le temps découvert ». Alors, Newman, il est un homme qui a eu une influence sur la culture. Aujourd'hui, on a l'impression que nos prêtres sont des grands spirituels parfois, mais plutôt exculturés. Et cette influence n'est pas sans lien avec sa propre théologie, puisqu'il a insisté beaucoup sur le rôle de la culture, de l'imagination, et ça va être notre sujet. Alors, la béatification de Newman a lieu le 19 septembre 2010 à Cofton Park, qui est l'endroit où Tolkien va avoir l'intuition du Seigneur des Anneaux, en tout cas du Hobbit pour commencer. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que c'est simplement une situation, est-ce qu'il y a un lien entre Tolkien et Newman? Est-ce que Tolkien a été influencé, sans doute, on sait que ce n'est pas directement, mais est-ce que finalement il n'y a pas eu une atmosphère et un renouveau créé par Newman dans le monde catholique anglais qui a permis d'une certaine façon l'œuvre de Tolkien?
C'est probable. La principale influence de Newman sur Tolkien, elle passe par sa mère, la mère de Tolkien, qui décède. Tolkien est orphelin et donc là, il est recueilli par un père de l'oratoire de Birmingham où la famille Tolkien habitait, le père Francis Morgan, qui est un des derniers novices à l'époque vivant de Newman et qui donc adopte littéralement Tolkien comme son fils adoptif. A-t-il lu du Newman à Tolkien? La fille de John Ronald Tolkien m'a dit, Priscilla, que dans sa famille, bien sûr, comme beaucoup dans les familles catholiques anglaises, le nom de Newman était connu, mais il n'avait pas joué un rôle décisif sur son père. Donc on ne peut pas déduire d'une influence directe. On peut en revanche, Newman était très féru de l'idée de génie du lieu. Pour lui, on ne pouvait pas faire toute chose n'importe où. Les lieux parlaient, les lieux étaient comme stratifiés, des lieux de mémoire qui parlaient et il fallait simplement s'accorder à ces lieux et les entendre. Et peut-être que Tolkien ne pouvait pas être ailleurs qu'à Birmingham pour devenir l'homme qu'il était. Et le génie qu'il aura alors inspiré sans qu'il le sache, peut-être c'était Newman.
Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas forcément cette rencontre mystique autour d'un lieu. Il y a quand même le fait que Newman est quelqu'un qui accorde la foi, l'acte de foi avec l'imagination. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose de très original? Parce qu'habituellement, dans la grande tradition française notamment, l'imagination chez Pascal est maîtresse d'erreur et de fausseté. Oui, oui. Et il s'agit pour arriver à la foi de revenir plutôt au réel, plutôt que de s'égarer, de s'évader dans l'imaginaire. Mmh. Et donc, quel lien peut-il avoir ? Et la question, c'est justement, est-ce qu'il n'a pas posé les bases d'un renouveau de l'imaginaire catholique qui a permis, d'une certaine façon, à la fois quelque chose qui va se passer à son époque, je pense à tout le renouveau dans l'art, William Morris, Arts and Crafts, oui. qui est quasiment contemporain, mais après, ce qui va se passer, bien sûr, avec Lewis et Tolkien.
Oui, mais alors pour comprendre le rôle de l'imagination chez Newman, Newman, vous l'avez dit, est romancier, Newman est musicien, donc c'est un homme sensible, c'est un homme de culture. Bien, donc l'imagination, pour lui, est une faculté, sinon première, en tout cas capitale et centrale. Alors, je dois immédiatement corriger ce que je viens de dire, parce que c'est ce que l'on dit habituellement, l'imagination comme faculté. Comment s'articule-t-elle par rapport à l'intellect, qui lui va poser l'acte de foi éclairé par la grâce ? Eh bien, l'imagination pour Newman est d'abord un milieu. C'est un milieu, il ne distingue pas entre mémoire, volonté, etc. Il y a l'esprit, et l'esprit pense par image, et si vous voulez, comme les empiristes avant lui, dont il se réclame, et dont il va en fait élargir la perspective pour faire servir l'imagination à l'acte de foi, l'imagination est un milieu qui reçoit des impressions du monde extérieur, les impressions que produisent en nous nos souvenirs, nos vécus, etc. Et ces impressions génèrent des images qui sont tantôt des images, tantôt des idées. Là, on peut jouer sur l'origine du mot image, idée en grec, eidos, elle se décline des deux manières. Newman nous dit, on ne peut pas arriver à la certitude. On ne peut pas, pourquoi on ne peut pas arriver à la certitude sans l'imagination ? Parce que l'imagination rend réel, comme le monde est réel quand nous le voyons, comme nos sentiments, comme nos souvenirs sont réels pour nous qui les avons vécus, l'imagination rend réel ce que nous ne voyons pas, ce qui est au-delà de l'emprise de la raison. Et donc, contrairement aux empiristes, Locke, Hume, qui nous disent que pour arriver à la certitude, il faut avoir un nombre X ou Y de probabilités qui font ensuite basculer du côté de la certitude. Donc, c'est la raison qui est la condition du passage de la probabilité à la certitude. Newman objecte que la raison ne peut jamais exercer ce poids sur, d'une certaine manière, elle-même. C'est l'imagination. Il conçoit comme une espèce de polarité en nous entre intellect et imagination. C'est l'imagination qui agit et qui va faire que, de soi-même, l'esprit va comme être entraîné par le poids de ces images qui deviennent toujours plus concrètes pour lui, être entraîné jusqu'à provoquer l'adhésion non seulement de la raison, mais dit-il, quand l'homme pense, c'est tout l'homme qui pense, nous dit Newman, avec sa sensibilité, avec sa mémoire, avec etc., eh bien c'est tout l'homme, c'est tout l'esprit, c'est tout ce qui nous constitue, qui bascule et qui adhère, tantôt dans une certitude de nature philosophique, mais plus profondément et beaucoup plus originalement, qui provoque l'acte de foi.
C'est-à-dire que ce que vous dites là, c'est un enjeu anthropologique fondamental, c'est-à-dire qu'il fait sortir l'intellect d'une vision, on peut dire par trop, angélique.
Complètement.
Et l'acte de foi comme un acte qui implique l'homme, donc avec sa sensibilité.
Avec sa sensibilité.
Et quand on parle de choses qui ne relèvent pas de l'expérience directe, finalement, c'est pas les sens externes qui les perçoivent, il faut passer par la sensibilité interne, et ce serait ça le rôle de l'imagination, c'est-à-dire de donner finalement une résonance, je dirais, plus humaine, plus charnelle, plus existentielle aux données de la foi.
Là, pour lui, s'il fallait traduire en langage contemporain ce qu'est l'imagination, on peut la penser comme la strate la plus profonde de ce que nous sommes, la couche impressionnelle de notre être, au plus près du lien entre âme et corps. J'allais presque vous parler de chair, mais je ne le ferai pas. Donc, mais c'est en tout cas à ce niveau-là que se situe l'enjeu pour Newman. Et la question et les objections que font à l'acte de foi les empiristes, les réponses que lui apportent les écoles philosophiques de son époque, qui sont celles qu'on appelle les evidentialistes, les évidentialistes, ceux qui veulent justement apporter des preuves, et des preuves qui sont des preuves rationnelles, pour faire pièce à la critique des empiristes. Newman nous vous dit, mais tout ça, c'est bien joli, mais vous restez sur le terrain de la raison, vous restez sur le terrain, entre guillemets, de l'adversaire, alors que c'est plus profondément en nous que se joue la décision. Et d'ailleurs, dit-il, nous ne partons pas de l'incertitude ou du doute pour aller à la certitude. Ça, c'est un jeu, nous dit Newman. Nous partons de la certitude, nous dit-il, quand on fait de la mauvaise philosophie et on joue à douter. La certitude est première. Oui. La certitude est première pour lui. Simplement, effectivement, ce qui me semble très, disons, moderne chez Newman, c'est précisément cette prise en compte du non-prédicatif qui n'est pas de l'irrationnel, de l'imagination, d'une couche plus intérieure qu'il désigne par un nom spécifique. Dans les sermons universitaires, le 13e, il fait une distinction entre raison implicite et raison explicite. Et nous dit-il, ce n'est pas parce que les hommes ne peuvent pas donner raison qu'ils n'ont pas de raison. Donc il y a une raison qui, d'une certaine manière, le fonctionnement nous échappe, parce que nous sommes toujours dedans, c'est notre milieu, on ne peut pas s'en extraire.
Dont le modèle n'est pas la raison scientifique, la raison philosophique avec ses syllogismes.
Absolument pas. Ce serait ce que Aristote comparerait cela, me semble-t-il, et Newman fait la comparaison en se référant à lui, non pas du syllogisme, mais de l'antimème, c'est-à-dire un mode de raisonner naturel qui fait que la prémisse majeure, donc le principe, l'archaïs qui décide de la vérité d'une certaine manière, est perçu naturellement, non pas dans le ciel des idées, mais en nous, nous dit Newman. C'est un nom chez lui, ça s'appelle la conscience, on y viendra peut-être.
Mais du genre, ce raisonnement-là, c'est vers aussi l'exemple peut-être, non ? La royauté est bonne, regardez Saint-Louis, par exemple.
L'éthique à Nicomaque nous dira que ce qui va décider du bon agir, de la bonne décision, c'est non pas la bonne théorie, ça va être l'exemple qu'on va rencontrer. Mmh. Donc effectivement, et d'ailleurs c'est central chez Newman,
c'est la faire image.
Exactement, c'est ça.
Peut-être parce que c'est le seul lieu, en fait, l'image, où notre raison atteint à une forme d'intuitivité, c'est ça ?
Absolument, absolument. Et surtout, la raison fait silence. D'une manière générale, Newman postule que la raison est seconde, elle vient après, c'est une instance critique, c'est une instance vérificatrice, c'est une instance... Mais il tient ensemble, quand bien même la raison est seconde, il tient ensemble raison et intellect, intellect et imagination, dans une organicité dont on trouve assez rarement un tel niveau d'équilibre chez d'autres auteurs, disant raison et imagination marchent ensemble, l'imagination est première, mais néanmoins, la raison ne lui est pas inférieure et doit contribuer au travail juste de l'imagination.
Alors, première, ça ne veut pas dire dans l'ordre de la spiritualité, mais peut-être dans l'ordre existentiel, ou même peut-être dans un ordre simplement chronologique. Je pense aux travaux d'un certain Georges Lakoff, sur les métaphores dans la vie quotidienne, et qui expliquait que nos raisonnements, nos discussions sont toujours enveloppés de métaphores parce que nous sommes des êtres corporels. Et donc, pour essayer de l'expliquer, si je peux parler du mot vérité, par exemple. Mmh. Mais est-ce que la vérité, je vais la penser premièrement en termes de lumière ? Parce qu'il y aura forcément la question de la lumière. Est-ce que je vais la penser en termes de solidité ? Est-ce que je vais la penser ? Et au fond, chez l'homme, la métaphore sous-jacente, mais souvent qui n'est pas toujours explicitée, est toujours là, mais c'est elle qui donne au fond une épaisseur, une consistance au concept. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ?
On pourrait le dire comme ça. Newman ne l'a pas dit de cette manière-là. On ne trouve pas le mot de métaphore, ni l'emploi de la métaphore dans son œuvre. Mais néanmoins, à partir du moment où le concret est sollicité en premier lieu avant l'abstrait, ce sera cette traduction-là qu'il donnerait de la notion de vérité, non pas une adéquation entre l'intellect et une chose, ou plutôt la condition de la vérité serait que la chose rencontrée ou visée par l'intelligence, et alors elle s'appellerait chose, et la densité du réel puisse nous faire non pas penser justement, penser droitement, certes, mais d'abord agir. Et c'est dans l'action, c'est dans l'agir, que nous serons alors, et je reviens sur métaphore, que nous serions alors portés alors au-delà de ce que nous pouvions penser, que nous savions penser, ou que peut-être même que nous ne savions pas pouvoir penser. Mais là, je pousse Newman là où il n'est pas allé.
Mais en même temps, est-ce qu'on ne pourrait pas dire bah, l'acte de foi n'est pas le terme d'un raisonnement logique, mais même s'il y a un certain raisonnement derrière, mais ce n'est pas le résultat d'un raisonnement logique. Il y a forcément une résonance existentielle, et c'est ça le rôle de l'imagination, voire même, pour Newman, on pourrait dire de la musique, parce qu'il a cette phrase très étonnante, il dit « peut-être que la pensée n'est que de la musique ».
Que de la musique,
c'est une phrase très, 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 très étonnante. Oui. Comment l'entendre ?
Il faut l'entendre, j'avais, là vous me prenez de court, j'avais détecter l'origine possible de cette formule de Newman. Alors, eh bien, vous me réinviterez. Mais pour en revenir à l'acte de foi, le passage de la possibilité même de l'acte de foi chez Newman est sous la juridiction entre guillemets. Bon, alors, bien entendu de la grâce, mais en nous, qu'est-ce qui fait que le faisceau de probabilité devant lequel nous devrions céder, nous ne cédons pas. Et pourtant, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Mmh. Eh bien, Newman appelle ça, dans la grammaire de l'assentiment, c'est pour lui l'apport principal de ce livre et de sa philosophie, dit-il. Il y a en nous ce qu'il appelle un sens, qui appelle le sens illatif, au sens de illatio latin, un sens qui fait bouger, qui fait avancer, qui fait sauter, qui est l'énergie même de la pensée, et donc qui opère ce saut entre le probable et la certitude, entre lesquels, pour nous dit Newman, il y a quasiment presque un infini ou une espèce d'indéfini. Et donc, mais il y a une condition néanmoins pour que l'illative sense, le sens illatif, puisse exercer cette fonction de passage, de saut. C'est que nous ayons vécu de manière à ce qu'il puisse exercer cette fonction. Donc,
mais s'il y avait un ajustement existentiel ce faisceau de probabilité et ce qu'on vit.
Exactement. Newman nous dit deux choses. D'abord, il faut vivre d'une certaine manière pour penser certaines choses et accéder à la vérité ou pour pouvoir possiblement poser un acte de foi. Mais, dit-il, il y a également ce que nous devons vivre quand nous voulons arriver à la vérité. Mais il y a tout ce que nous avons vécu auparavant et qui, dans tous les moments de notre vie, nous dit-il, totalise notre être. Totalise ce que nous sommes. Et selon ce que nous avons vécu, nous pourrons penser certaines choses. Selon ce que nous avons vécu, nous nous interdirons de penser certaines choses, de faire certains choix. Il a des phrases terribles, nous tourner vers la lumière ou nous tourner vers les ténèbres. Quoi qu'il en soit, il y a un coefficient très clair chez lui, une corrélation très claire chez lui entre la possibilité d'accéder à la vérité, la possibilité de poser un acte de foi, de s'ouvrir cette grâce qui nous fait basculer dans le tout autre, qui nous ouvre au tout autre, et une corrélation avec la manière dont nous avons vécu.
Donc, comme si le donner de la foi, l'annonce de l'évangile, plutôt que d'être quelque chose qu'on voit comme la suite d'une démonstration, etc., finalement, faisait écho à l'ordre même de notre existence, qui pour nous est un peu épars, mais finalement, et l'imagination presque pourrait sentir ce lien entre la suite des événements que nous avons vécu, dont on voit pas très bien le sens, et se donner l'évangile, on se dit tiens, c'est ça.
Il y a une espèce de phénomène d'anticipation, d'une certaine manière, dans l'imagination, qui comme pressant unifie en tout cas le divers du vécu. Comme d'une certaine manière, les impressions du monde sensible sont unifiées par le divers sensible est unifié par l'entendement. Ça, c'est du Kant. Newman ne dit pas ça. Il dit que dans les deux cas, c'est l'imagination qui unifie. L'imagination comme milieu unifie le divers sensible en nous faisant l'expérience par des impressions. Ça, c'est une couche très importante. Il faut un élément très important, une étape. Vous avez l'impact du sensible ou de nos vécus qui provoque des impressions. Le mot « impressions » en anglais chez Newman est important parce qu'il est connoté, il a deux sens. C'est à la fois comme une marque, comme une empreinte, et davantage comme justement un affect. Ça provoque une certaine impression, agréable, désagréable, lumière, ombre, etc. Donc c'est toutes les émotions qui sont sollicitées. Donc Newman vous dit, nous n'allons pas à la lumière sans que nous écoutions nos émotions. Nous ne posons pas un acte de foi sans que, encore une fois, tout notre être ait été mobilisé. Raison pourquoi il finit sa vie comme cardinal avec cette devise qui synthétise un petit peu tout ce que nous venons peut-être de voir. Le cœur parle au cœur. Et dans le fond, il n'y a que... Et ce n'est pas du sentiment. C'est vraiment un cœur de raison. Mais d'une raison complètement...
Comme le cœur chez Pascal.
Exactement.
Le c'est le même cœur. L'intelligence. Oui. Alors, on a parlé beaucoup de l'imagination et on voit bien le rôle de l'imagination dans cette concrétisation, dans cette actualisation, on pourrait dire sensible, charnelle, existentielle pour l'homme. Mais on fait de Newman quand même... d'abord, souvent, le théologien de la conscience. Et c'est d'abord peut-être ce terme-là, on ne l'a pas du tout abordé encore. On sait que dans sa célèbre lettre au duc de Norfolk, il a cette phrase « si après un dîner j'étais obligé de porter un toast religieux, ce qui évidemment ne se fait pas, je boirais à la santé du pape, croyez-le bien, mais à la conscience d'abord, ensuite au pape. » Alors bien sûr, il écrit ça dans un contexte où on vient de déclarer l'infaillibilité pontificale. Qu'est-ce que c'est que cette conscience qui serait d'une certaine façon, qui aurait une sorte de magistère plus infaillible que celui du pape?
Oui. Alors, qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est d'abord un phénomène chez Newman. C'est pas d'abord la conscience morale, c'est d'abord une phénoménalité en nous qui se traduit par des impressions. La conscience, quand on l'écoute, provoque une impression. Cette impression, il la décline, là, pour le coup, avec des métaphores. Ombre, lumière, un père qui me regarde, puis ensuite il va monter toujours plus loin, jusqu'à donner l'idée, l'image d'un législateur, d'un juge, d'un maître, d'un père aimant, etc. Bref, jusqu'à Dieu. C'est une impression en nous, plus forte pour Newman, plus tangible, qui a plus de densité que l'impression que provoque le monde sur nous. Donc c'est un phénomène en nous qui est au-delà, qui vient comme d'au-delà du monde, qui parle d'autre chose que du monde. Et pourtant complètement immanent, pleinement immanent, tellement immanent que nous dit Newman.
Ce qui est le plus en nous et qui n'est pas simplement nous.
Nous. Et néanmoins, celui aussi au phénomène auquel on prête le moins d'attention, il faut une écoute, il faut qu'on... Donc les impressions ne s'imposent pas à nous, contrairement au monde qui nous écrase de sa visibilité. Il faut faire silence. Donc il y a une mise à distance du monde, il y a une écoute de ce qui se passe en nous, de ce qui se dit, de ce phénomène qui vient, au bout du compte, la raison intervient et dit... Ça vient d'ailleurs. Je ne vois pas d'où ça pourrait venir, ni du monde, ni de moi-même. C'est pas un phénomène psychologique. Donc, et cette conscience, petit à petit, nous dit Newman, d'abord provoque une impression. De cette impression va jaillir progressivement une image, celle que je vous disais, ombre, lumière, père, juge, etc. Nous dit Newman, la conscience est l'instance en nous de la religion, ce qu'on appelait, ou ce qu'on peut l'appeler encore aujourd'hui, la religion dite naturelle. Alors, on peut l'interpréter de diverses manières, c'est la trace de notre relation d'une certaine manière avec
de créature.
De créateur à créature, pour Newman. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est
moi et mon créateur.
Moi et mon créateur. C'est une déduction directe de l'expérience de la conscience. Donc, à partir de là, Newman nous dit, oui, mais cette image que je... Disons, quand, dans son plus grand état d'honnêteté, sans aide extérieure, c'est celle d'un juge et c'est celle d'un père. Elle est floue. J'ai pas encore le visage qui se dégage complètement. Donc, va-t-il dire, c'est une pensée qu'il développe au fur et à mesure des années, il va dire, c'est le magistère de l'Église, c'est l'Église qui me donne alors, comme un miroir,
une explicitation
de ce que je portais en moi et ne savais pas. Alors, je vous parlais de la polarité imagination-intellect. Vous avez une autre polarité. Newman pense comme ça, par des paires, des groupes de concepts qui en apparence s'opposent, mais ne s'opposent pas. Ils sont en relation non pas dialectique, mais organique et dynamique. Vous avez la conscience personnelle, qui est vous, mais qui n'est pas vous. Et vous avez le magistère et vous avez l'Église, chez Newman. Mais Newman nous dit, néanmoins, puisque la grâce ne supprime pas la nature, et puisque la conscience produit cette image originaire qui est celle qu'on découvrira être celle du Christ au bout du compte, eh bien, à ce titre, oui, la conscience, dit-il, est le vicaire originaire du Christ en nous, mais il faut l'Église pour qu'on le sache et qu'on le voit. Donc, il n'y a vraiment pas de jeu dialectique entre le pape d'un côté et la conscience de l'autre. Bien au contraire, il y a un jeu symphonique. La conscience, le pape ne peut jamais aller contre la conscience, parce que, dit-il dans la lettre au duc de Norfolk, il couperait la branche sur laquelle il est assis. Et à l'inverse, la conscience ne peut jamais faire l'économie du magistère, parce que le magistère lui répond symphoniquement comme une espèce d'organicité étonnante. En disant cela, on ne l'a pas assez souligné, Newman fait droit à une des exigences les plus fondamentales de la réforme protestante, et il la réintègre à l'intérieur de l'Église organiquement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs le magistère depuis un siècle lui a fait droit, Vatican II l'a dit très clairement, il y a vraiment une résolution de l'aporie de la réforme qui opposait dialectiquement la conscience personnelle du croyant, sa relation directe avec Dieu d'un côté et l'Église de l'autre. Il y a une résolution de cette dialectique chez Newman, et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on dit de lui, et je me demande si c'est pas Benoît XVI qui l'a dit quelque part, on peut dire de Newman qu'il est le bienfaiteur de deux Églises.
Oui, il a été un réformé, puisqu'il était anglican
lui-même.
Et donc c'était aussi la résolution de son identité même, d'ailleurs, de protestant, en tout cas. Mais alors, j'ai l'impression aussi que la conscience, c'est le fond même de ce que je suis aussi, et peut-être que l'idée, c'est aussi, on doit toujours partir de la conscience, parce que... Alors, on a des tas de choses, des tas d'idées qui nous passent par la tête. Et donc, il faut qu'il y ait ce silence pour qu'on puisse vraiment retrouver, disons, ce centre. Mais c'est surtout le fait que l'acte de foi, la rencontre de Dieu, c'est pas de réciter quelque chose, c'est pas une aliénation, c'est quand même ma personne. Donc, c'est le fond de ma personne qui doit aller. Et l'idée, c'est pas que je porte un toast au pape en disant, dans un acte de soumission, pour ainsi dire, mais vraiment à partir de ma liberté même et donc de ma conscience. Donc la prééminence de la conscience, on pourrait dire, ou la préséance de la conscience sur le pape, c'est précisément la seule manière de rendre un hommage véritable, où c'est bien moi qui rends hommage et non pas moi qui me soumets.
Complètement. Newman vous dirait le droit de l'Église à évangéliser repose sur le fait que la conscience, qui est donc ce qui m'est le plus propre, puisqu'on peut jouer sur les mots, conscience, être conscience de, et de qui suis-je conscient avant tout le monde, de moi. Donc, c'est ma conscience la plus personnelle, qui se découvre alors, par l'écoute de moi-même, la conscience d'un autre, en même temps, enfin, avoir conscience d'un autre qui me porte, et il n'y a que l'Église qui puisse ouvrir accès en moi à cette altérité qui me constitue et qui donc est le garant de ma liberté la plus authentique. Donc l'évangélisation...
Qui est lucide, disons, parce que quand on rentre en soi-même, on voit bien qu'on a cette altération, cette altérité, c'est-à-dire une étrangeté de soi à soi-même. Et donc qui viendrait l'élucider en me révélant mon caractère de créature et même en révélant mon caractère de pécheur sauvé.
Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est même par ce biais-là le fait que Newman mette tellement l'accent sur ses affects qui sont ceux de la honte, ceux de la plus fondamentalement de la compunction, c'est-à-dire la réaction que provoque l'exposition à la lumière. Et quand on s'expose à la lumière, eh bien toutes nos ombres vont apparaître. Bon, et c'est à travers cette phénoménalité de la compunction, je dirais, que nous accédons aussi à cette dimension d'étrangeté de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes, que l'Église vient alors non seulement éclairer, mais alors aussi soigner, consoler et sanctifier.
Alors Newman va quand même très loin, parce qu'il dit en quelque sorte, j'ai toujours soutenu qu'obéir à sa conscience, même lorsqu'elle s'égare, est le moyen d'arriver à la lumière, et qu'il importe peu par où l'on commence, pourvu que l'on commence par ce qui s'offre à notre portée et en esprit de foi. C'est quand même très étonnant, c'est-à-dire l'idée qu'on pourrait partir de n'importe quoi, de n'importe quelle situation. Je pourrais être, par exemple, un amoureux du marquis de Sade ou de Donald Trump. Mais si, à partir de cet amour ou de cet affect que j'aurai en premier, j'écoute ma conscience, Sade ou Trump vont me mener à la vérité tout entière et donc au Christ.
Oui,
parce que là, je parle vraiment d'une conscience qui s'égarait. Hein, donc,
Oui, la conscience, si la conscience s'égare dans la mesure, elle peut être dite s'égarer dans la mesure où elle n'a pas justement encore fait le lien avec ce qui va l'éclairer, ce qui va la former, ce qui va en fait la redresser. Donc, un peu difficile de tirer de cette phrase-là de Newman la conclusion que. Quel que soit le chemin que va emprunter la conscience, dans la mesure où j'y reste fidèle, en aimant ou en m'attachant à ceci ou cela...
Mais en faisant la vérité aussi à partir de ce qui a été mon premier attachement, puisqu'après tout, si tout ce qui peut m'attirer, de toute façon, vient forcément de Dieu, il suffirait de, sous la lumière de la conscience, d'élucider n'importe quel attachement pour aller jusqu'au bout, même si au départ, c'est quelque chose qui est faux ou pécamineux.
Oui, je ne sais pas.
Parce que je pense à cet autre aspect, je dis ça parce que c'est toute une dimension finalement de l'annonce de l'évangile ou de l'apologétique, c'est-à-dire ce que tu aimes va au bout de ce que c'est, en vérité, en sincérité, et forcément tu vas arriver à quelque chose. Ouais. Par exemple, tu aimes les femmes, mais va au bout de l'amour des femmes, mais à quoi ça va te mener? Et d'une certaine façon, on va retrouver la question de la rédemption, la question de la résurrection de la chair, la question d'une communion, d'une union béatifique. Parce que je pense à aussi ce qu'il dit par rapport au gentleman. C'était ça, un penseur aussi du chrétien comme gentleman. Oui. Et il dit, le vrai gentleman cherche d'abord à ôter les obstacles qui s'opposent aux initiatives de ceux qui l'entourent. Et je me disais, bon, est-ce que c'est pas ça d'abord l'annonce de l'évangile? C'est suite à conscience, à partir de... Et j'enlève les obstacles. Mais s'il y a ce développement, le mot développement est très fort chez de ce que tu es, forcément tu vas aller, parce que c'est l'élan le plus profond de ton être, vers cette lumière.
Je dirais, derrière ça, il y a l'idée qui est à la fois newmanienne et peut-être davantage encore augustinienne, mais il s'inscrit dans cette perspective-là, c'est le moteur profond de ce qui peut nous contenter. Hein, que voulons-nous? Bon, Augustin répond, Newman lui fait d'une certaine manière écho. Nous voulons être heureux. Bon, sauf que nous ne choisissons pas forcément les objets qui nous rendront véritablement heureux. Néanmoins, il y a un chemin. Et le chemin direct, ça va être que Dieu se révèle et qu'il se découvre comme la béatitude à laquelle nous sommes appelés. Mais il y a aussi le chemin indirect, plus long, qui est celui dans lequel nous sommes. Il faut traverser les ombres et les images pour arriver à la vérité. Ça, c'est l'épitaphe de Newman dans le cloître de Birmingham. Et traversant alors ces plaisirs ou ces joies qui ne nous contentent pas complètement, mais néanmoins en les traversant, à la fois dans le contentement et à la fois dans l'insatisfaction rencontrée dans ces contentements, oui, au bout du compte, on pourrait arriver, on arrivera peut-être à ce qui nous contente véritablement, d'ailleurs, laissant les petits plaisirs pour le grand, l'unique, celui qui nous contentera.
C'est-à-dire que je pense à ce que dit Augustin dans les Confessions, que les vices sont encore des imitations de Dieu, mais déviées.
Bien sûr.
Ou encore ce qu'il y a chez Pascal, c'est-à-dire que même le pécheur, même par exemple le divertissement dans lequel on se jette, est le signe d'une certaine forme d'appel à quelque chose de plus haut, signe d'une déchéance qui montre que la déchéance nous vient nous prouver que nous étions des rois, et que nous avons perdu cette royauté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Il suffit de jeter la lumière sur ce qu'on est en train de faire, et dès lors, il va s'opérer ce développement qui va aller jusqu'au bout.
Oui. Mais simplement, la différence d'accent vient du fait que vous avez chez un homme comme, surtout Augustin, qui lui s'est jeté justement dans des... Alors que Newman est un homme tout en retenue, donc beaucoup plus sensible à beaucoup plus sensible à des blessures qui seront peut-être moins importantes aux yeux d'Augustin, mais qui aux yeux de Newman auront une proportion en raison de sa sensibilité plus effective, et dont il se gardera alors de s'approcher encore à nouveau. Donc c'est pour ça que le cadre augustinien peut fonctionner. L'exemple de vie de Newman et de ce qu'il écrit par rapport à ça est beaucoup plus dans la retenue, la réserve et la distance.
Mais je parle surtout de... Parce que c'est l'expérience qu'il fait dans ce très très grand livre. Hein, je pense souvent à la phrase d'Edith Stein qui, après avoir lu la vie de Thérèse d'Avila, écrite par Thérèse d'Avila, ferme ce livre en disant cette femme ne ment pas, c'est la vérité, et elle a cette conversion comme une sorte d'évidence. Moi, je dois dire que j'ai eu cette impression-là en lisant l'Apologia pro vita sua, ce livre où il défend... On disait qu'il était, dès le départ, un agent catholique, qu'il avait fait semblant d'être anglican, et donc il a essuyé de nombreuses accusations. On a même dit qu'il était, à un moment donné, l'homme le plus dangereux d'Angleterre. Donc, il répond à tout cela, et il montre un itinéraire, et il montre comment il a essayé, à la limite, de résister au catholicisme. Pour résister au catholicisme, il a dû déployer une argumentation, rechercher les sources, remonter. Et en fait, c'est ça qui va faire sa conversion.
Oui.
Donc, comme si la persévérance dans l'erreur, ou peut-être le fait de rendre raison de son erreur, nous conduisait forcément à un moment à la raison.
Chesterton dit ça en parlant de Newman. Il dit plus il voulait essayer d'être authentiquement anglican, plus il devenait catholique. Parce que le modèle d'ecclésial qu'il avait choisi, c'était les pères de l'Église, et que ça ne marchait pas entièrement. Mais c'est cette logique-là, effectivement.
Oui.
C'est tout à fait ça. L'Apologia, c'est un livre qui jaillit parce qu'on on touche Newman à ce qui constitue sa typologie d'esprit la plus particulière. C'est-à-dire le Kingsley, Charles Kingsley, qui est un intellectuel. Je ne sais pas à qui on pourrait le comparer. Peut-être on pourrait imaginer un brûlot de Bernard-Henri Lévy contre quelqu'un et qui déclenche le feu. Et encore, la comparaison n'est pas bonne. Bon, peu importe. Donc, on l'attaque sur the meaning. What Dr. Newman means. Qu'est-ce qu'il veut bien dire, le Dr. Newman? Et le meaning en anglais, c'est à partir de quoi tout ce que vous allez dire est tantôt affecté de vérité, de véracité, ou alors d'erreur, de fausseté, etc. Et donc, ce qu'attaque Kingsley, c'est ce qui permettrait à Newman, justement, de se défendre au moyen d'arguments, parce que tous ces arguments apparaîtraient aux yeux de ses détracteurs comme biaisés. Parce que, sous-entendu, c'est un menteur invétéré, comme tous les catholiques, c'est pour ça que va répondre...
Oui, il cherche à nous séduire, quel que soit l'argumentation.
Exactement.
C'est rhétorique.
C'est rhétorique. Donc, ce que va faire Newman, justement, c'est qu'il va justement se rendre compte que les arguments seront de toute façon inopérants et qu'il ne pourra rien faire. Il va utiliser ce qu'il a toujours su faire, c'est justement la rhétorique, mais non pas au sens où l'entendait Kingsley, c'est-à-dire, je ne peux pas vous prouver les motifs, la validité des motifs pour lesquels je suis devenu catholique. Ce que je peux faire, c'est vous raconter ce qui m'est arrivé.
C'est narratif. C'est dramatique.
Alors, il veut toucher... Il veut toucher, évidemment, les émotions, il veut toucher, provoquer des impressions, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire naître dans son lecteur une image. Parce qu'il sait que ce que Kingsley a réussi à faire, c'était de lui coller une image dont les arguments n'arriveraient pas à rectifier les contours. C'est en donnant au lecteur... l'impact, l'image, l'impression qu'il a eue lui-même en contemplant l'Église des Pères dans laquelle il a reconnu l'Église catholique, en réussissant à faire la même chose par le récit de sa propre vie, que Newman pensait pouvoir valider en fait son parcours. L'argument principal de Newman, c'est lui-même, c'est sa vie. Il dit d'ailleurs dans la préface de la première édition de l'Apologia, « Ce que je veux montrer, c'est ma vie. Ce que je veux expliquer, c'est ma vie. Ce que je vais rendre public, c'est ma relation la plus intime avec mon Dieu. » Ça, je le cite, etc. Et le point de départ de cette odyssée qu'il conduit sa naissance, mais surtout 1816 jusqu'en 1845, se trouve tout au début du livre, où il y a une des pages les plus extraordinaires de l'histoire de la littérature religieuse, et qui est une page en fait ni d'abord religieuse, ni biographique, mais philosophique. Il dit, racontant sa première conversion, que cette première conversion, où la religion lui est apparue comme une religion comprenant un dogme, que le dogme a provoqué, la découverte du dogme a provoqué en lui une impression, que cette impression a ouvert son intelligence à l'Église, à une religion dogmatique à l'Église et à la figure du Christ, a provoqué un renversement intérieur, un changement intérieur, un changement de pensée, qui aboutit à quoi, nous dit Newman, à la certitude, je le cite, qu'il n'existe que deux êtres, et deux êtres absolus, dont l'existence s'atteste et s'éclaire mutuellement, moi-même et mon Créateur. Et donc, c'est à partir de là qu'il commence son odyssée, et c'est en fait là qu'il veut conduire son lecteur. Il lui dit, bon, regardez-moi vivre, mais c'est en me regardant vivre, ce n'est pas moi que je veux que vous regardiez.
C'est l'œuvre de mon Créateur.
C'est l'œuvre de mon Créateur. Et je ne peux pas vous la montrer autrement que de vous donner le tableau de ma vie.
Que par cette narration, que par quelque chose qui passe du raisonnement à la résonance,
à la résonance
et, aux images.
Et aux images.
Alors justement, ça me fait penser à ce texte de Maria Zambrano qui s'appelle La confession genre littéraire, où elle pose le problème d'une vérité qui serait trop abstraite par rapport à la vie, qui est toujours singulière et personnelle. Et elle dit, en gros, parce qu'il y a une sorte d'échec de la philosophie du fait de son abstraction, qui n'arrive pas à rejoindre la vie des autres, et que le lieu littéraire qui permet, le genre littéraire qui est le lieu où l'un peut rejoindre l'autre, qui trace un pont, c'est la confession. C'est-à-dire non pas une vérité abstraite, mais une lumière qui se jette sur mon existence, qui en fait voir d'ailleurs les ombres et les images d'une certaine façon, oui. Et qui d'une certaine façon aboutit à rejoindre l'autre aussi dans son existence individuelle. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas dire que les points culminants de l'œuvre de Newman, c'est justement cet endroit où d'une certaine façon le théologien et le témoin se rencontrent?
Complètement, c'est ce qu'implique directement cette formule que je viens de vous dire. Il n'y a que deux êtres absolus dont l'évidence s'atteste, oui. Et s'éclaire mutuellement. C'est que Newman ne dit pas « Dieu était aussi évident que moi ».
Oui, c'est pas Descartes.
C'est pas Descartes. C'est pas non plus un nivellement moniste et univoque de l'être où Dieu aurait le même être que moi et vice-versa. Non, c'est que Newman dit « Vous me demandez », c'est aussi dans l'Apologia, « Vous me demandez pourquoi je crois en Dieu ? Je vous réponds parce que je crois en moi. » Alors ça peut paraître monstrueux. Non, c'est parce que il y a une... comment dirais-je ? Il est en statut de réponse, il répond à celui qu'il appelle, et dans cette réponse, c'est ce que sous-entend la formule de l'Apologia, apparaît l'évidence, alors, de ce Créateur qui le porte et qu'il ne voyait pas. Mais il fallait qu'il réponde. C'est en ce sens-là que l'Apologia est précisément une apologia, donc une défense, et en ce sens-là aussi donc une confession, c'est que c'est dans la réponse donnée à l'appel que vont apparaître les motifs, entre guillemets, de crédibilité, qui ont poussé Newman à faire le pas. Donc il n'y a pas une... C'est pas un discours qui se déroule et qui prend comme objet Dieu. Évidemment pas. C'est un peu une réduction phénoménologique pour moi, l'apologie.
Oui, mais c'est aussi l'idée que où est-ce que vous pouvez voir Dieu ? Enfin, je ne peux pas vous le faire voir, mais je peux vous faire voir mon existence. Et si c'est l'œuvre de Dieu, alors vous voyez son auteur d'une certaine façon, si je la montre simplement avec cette... Mais alors, ça pose d'énormes questions à tout ce qui est pastoral, apologétique, annonce de la foi. On a dit qu'il y a cette dimension narrative. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup sur le témoignage, mais souvent ce témoignage devient un petit peu invertébré, tombe dans l'anecdote, le sentimental. Ce n'est pas du tout ce qu'il y a chez Newman, parce que dans l'Apologia, on voit aussi cette sorte de pudeur, aussi quelque chose qui est dépassionné parfois, mais qui est vraiment une sorte aussi d'objectivité dans la présentation de la vie. Mais vous avez parlé au début de milieu. Est-ce que le grand drame, on pourrait dire, ou le grand échec, par exemple, de l'annonce de la foi, ce serait de vouloir la faire de manière, sèche, sans justement son cortège d'images, et donc sans essayer de promouvoir d'abord une culture qui puisse l'accompagner. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème où soit c'est inefficace parce qu'il n'y a pas la culture ensemble et donc ça n'arrive pas à pénétrer, soit ça marche mais ça plonge les gens dans un spiritualisme et dans une adhésion, je dirais, qui ne transforme pas leur vie en profondeur.
Mmh. Oui, c'est exactement. Je crois qu'il y a ça. C'est tout l'objet, ou presque tout l'objet de l'idée d'université chez Newman. Donc le primat à donner pour que, encore une fois, l'évangile soit tangible, l'invisible se rende comme visible, une préparation, et cette préparation, il n'y a que les humanités, selon lui, qui peut les donner, c'est-à-dire le recours au poème, la poésie, le théâtre, la musique. Il faisait jouer des pièces, il vous l'avait dit, il était lui-même musicien, il jouait très bien du violon. Donc c'est à la fois le théologien, le philosophe, mais c'est l'homme de culture qui parle. Et pour l'homme de culture, il faut ménager l'espace, la caisse de résonance intérieure qui ne peut être donnée que par la culture, qui ne peut être donnée que par l'éducation, qui va faire que tout ce que l'évangile nous donne ne va pas tomber d'abord dans l'intellect, mais sera d'abord reçu comme réalité, parce que l'imagination va s'en servir, va s'en saisir, et ensuite l'intellect viendra. Mais d'abord, l'imagination.
Mais on a l'impression quand même qu'il y a, si on regarde la formation des séminaristes, si on regarde la proposition qui est faite pour les chrétiens en termes de formation ou de catéchèse, quelle est la place de la littérature, quelle est la place de la poésie, c'est le néant quand même. C'est de la musique, enfin on croit. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème majeur ici? Parce qu'autrefois, la foi, c'est la foi qui venait avec des cathédrales, avec une liturgie, avec tous les musiciens, tous les artistes du temps étaient sollicités par cette foi. Et donc, la rencontre se faisait effectivement dans un milieu qui était total, enfin qui était complet. Là, on a l'impression qu'il s'agit d'adhérer à certains articles, à une morale, à des valeurs, à des choses abstraites, ou alors à quelque chose qui serait purement spirituel, mais qui serait en déficit d'imagination et donc aussi d'incarnation.
Oui, c'est ça. Tantôt, Newman parle tantôt du penser ou de l'assentiment notionnel, c'est-à-dire celui qu'on porte, qui est véhiculé par les notions, par les propositions, par exemple. Et puis l'autre, c'est l'assentiment réel, qui est provoqué donc par la rencontre des images et qui rend justement les notions, qui ne transforme pas les notions, c'est le regard qui est transformé. Alors il faut être exposé à ces images, il faut être exposé à ceux qui vivent d'une relation vivante et réelle avec le Christ. Mais avant tout, alors ça, Newman ne le dit pas, ne le thématise pas, il n'y a pas de traité là-dessus, mais tout va dans cette direction. Dans le fond, avant la doctrine, mais ça ne veut pas dire qu'on la laisse de côté, avant la doctrine, il faut exposer l'homme au Créateur, exposer l'homme au mystère, exposer l'homme à ce qu'il ne comprend pas, pour qu'enfin il lâche prise, pour qu'enfin la raison reprenne sa position d'observatrice et non pas d'instance législatrice ou douanière qui interdit l'entrée des phénomènes parce qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions.
Le faux doute aussi, oui, du philosophe, tout ça. La position du sceptique.
Complètement. Il faut se jeter à l'eau et ensuite on parle. Newman, c'est un peu ça. Il y a un critère quand même. Quand il parle de la conscience, il parle beaucoup du sens esthétique de la conscience. C'est-à-dire qu'il y a une impression qui est comparable, d'analogue à l'esthétique, donc à la beauté. Il y a un concept provient, pas un concept, oui, appelons-la comme ça, un concept, chez lui, c'est la beauté de la sainteté. Ce n'est pas seulement la vérité, c'est pas la vérité seule qui va convaincre, et ce n'est pas la doctrine seule qui va convaincre, et ce n'est pas la raison seule qui va emporter l'adhésion. C'est la beauté, chez Newman, mais ce n'est pas une beauté alors qui est celle... alors c'est paradoxal, mais pour l'homme de culture qu'il était, pas la beauté des formes musicales ou autres, c'est d'abord la beauté de la sainteté, la beauté de Dieu qui transparaît dans une vie, hein, d'une certaine manière, et qui contamine alors celui qui entre en contact avec elle. Et alors qui va imprégner progressivement autour d'elle la société, peut-être corrigée, peut-être redressée, d'une autre manière que peut le faire la raison, d'une autre manière que peut le faire l'intellect. Mais encore une fois, parce qu'elle Encore une fois, parce qu'elle sollicite d'abord l'imagination, qui dit beauté, dit quelque chose à voir.
Mmh. Alors, à propos de ce déficit de l'imaginaire, je pense à une parole de Paul Claudel dans ses réflexions sur la poésie. Il dit que si d'une certaine façon l'espérance s'est aussi effondrée dans le monde moderne, et c'est pour ça qu'il y a des ersatz d'espérance à travers tous les espoirs mondains, le progressisme, le transhumanisme aujourd'hui, etc. C'est aussi parce que il y a une perte de l'imaginaire de l'espérance. On va dire, l'au-delà est irreprésentable, la vision béatifique est irreprésentable. Donc, il ne peut pas y avoir de peinture. Les représentations du paradis, du Moyen-Âge, étaient bien naïves. Elles jouent d'ailleurs en notre défaveur, puisque se représenter un beau jardin où les gens dansent, comme le fait Fra Angelico, c'est un peu ridicule aujourd'hui pour l'homme moderne. Donc, il n'y a plus d'image. On a peur d'exposer la gloire, d'une certaine façon. Mais à cause de ça aussi, l'espérance devient un peu creuse, vide. Mmh. C'est un assentiment notionnel et non pas un assentiment réel, pour reprendre l'idée. Alors, est-ce que justement la pensée de Newman n'est pas ce qui nous pousse à retrouver aussi une iconographie chrétienne, une poétique chrétienne, pas simplement dans la liturgie, mais aussi dans toute la culture finalement.
Oui, bien sûr. Vous trouvez ça dans l'idée d'université où il part de la littérature, la place de la littérature et la nécessité. Et ça, c'est ce que son frère Francis Newman, qui était pourtant avare de compliments à l'endroit de son frère, Francis Newman avait dit à Newman, tu dois contribuer sinon à la création, du moins à la préparation de l'émergence d'une nouvelle culture catholique, d'une nouvelle culture qui ne soit pas une culture confessionnelle, qui ne soit pas une culture pieusarde, qui ne soit pas une culture de sacristie, parce que tu n'es pas ça, mais une culture qui respire et qui fasse entendre les anciens et la voix des anciens, parce qu'il y a les humanités qui peuvent nous apprendre, nous donner des mots pour savoir ce que nous vivons, Terence, Virgile, Homère, etc., mais également des nouveaux créateurs qui vont apparaître et qui vont dire autrement, qui vont dire par la beauté, par les images, par la musique, ce que la raison ne sait pas dire. Et c'est de ça, me semble-t-il, aujourd'hui, dont nous avons plus besoin, parce qu'on marche sur la tête, on marche à l'envers.
C'est une belle conclusion, parce qu'avec ça, on retrouve Tolkien, oui. Le Seigneur des Anneaux, qui ne parle pas du Christ, qui ne fait aucune référence directe à la religion chrétienne, qui déploie un imaginaire qui reprend les anciens, qui réinvente la mythologie, qui en même temps nous met en contact avec ce qui fait le fond de l'existence, peut-être de la sainteté, de l'héroïcité belle, et aussi du paradis, finalement.
Oui, complètement. Complètement.
Merci, Grégory.
Merci, Fabrice.
C'était Entre nous soit dit, une émission présentée par Fabrice Adjadj, avec aujourd'hui Grégory Solari sur John Henry Newman et l'imagination. Merci à Claire Cabara, qui était dans le silence, mais présente pour la technique. À très bientôt.